Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Ça y est, alors ça a mis 4 minutes pour se mettre en place. Voilà, fallait essayer de comprendre comment ça marche. Zéo, on peut commencer notre étude. Alors, je ne sais pas si vous êtes là, je ne vous entends pas, mais j'espère que vous êtes là. Sinon, ça sera un cours pour moi en privé, un autocours. Donc voilà, comme d'habitude. Comme d'habitude, Féra, nous allons commencer donc notre étude hebdomadaire sur la paracha et nous allons donc ouvrir ce soir Parashat Vayakhel. Parashat Vayakhel. Alors, Parashat Vayakhel, comment vous expliquer ça? C'est une paracha ennuyeuse au possible. Ah bah oui, ça y est, Parashat Vayakhel et Pekoudé sont les parachiotes de la réalisation du Mishkan. Réalisation du Mishkan, alors on a déjà appris tout ce qu'il fallait faire dans la paracha de Trouma et Tetzavé. Et maintenant, il s'agit de la réalisation. Concrètement, on va rien apprendre de nouveau dans cette paracha. Tout ce qu'on avait déjà dit dans la paracha de Trouma et Tetzavé, eh bien, on va la retrouver ici. Donc, la question, c'est qu'est-ce que cette paracha a à nous apprendre? Eh bien, cette paracha nous rentre dans la réalisation du projet de l'homme sur Terre. Tout simplement. La réalisation du projet de l'homme sur Terre est de construire finalement le lieu qui nous permet d'avoir une véritable connexion, une véritable rencontre avec Dieu. Ben oui, c'est de cela qu'on parle. Comment cela, c'est de cela qu'on parle? Eh bien, s'il s'agit de rencontrer Dieu, on nous parle de Beit HaMikdash. Quand on parle du Mishkan, on dit « Asuli Beit Shel Kedusha » nous dit Rashi. Vasulim Mikdash Veshachanti Betocham, Vasulim Mikdash Bait Shel Kedusha, nous disait Rashi dans la paracha de Terouma. Donc, Bait Shel Kedusha. Pour pouvoir avoir une rencontre avec Dieu, donc être à cette dimension de Kedusha, on a besoin d'avoir la dimension de rencontre. Or, une rencontre, en hébreu, ça se dit Lei Vaed, Moed, Vaad. Et oui, vous avez entendu le mot « moed ». « Moed », c'est ce qui détermine les fêtes. Certes, c'est ce qui détermine les fêtes, mais pas que. Les fêtes sont appelées « moadim », certes, mais le « Beit HaMikdash » est également appelé « Oel Moed ». Et oui, parce que pour avoir une rencontre, il nous faut ces trois éléments. Il nous faut d'un côté les identités qui se rencontrent, en l'occurrence Dieu et le peuple juif, mais il nous faut également le lieu de la rencontre et l'endroit de la rencontre. Mais ça, vous le savez déjà. Ce qui fait que la paracha de Vayakhel, c'est la réalisation de la troisième partie qui nous manquait, du troisième pied qui nous manquait pour qu'il y ait cette rencontre. Il y avait Dieu et Amisraël, il y avait, et donc il nous manquait, cette dimension du Mikdash, du Mishkan. Et donc, on va commencer à construire. Et quand on ouvre la paracha, eh ben, on se rend compte tout de suite, on a un problème, parce qu'on nous dit que Dieu a rassemblé, a demandé à Moshe de rassembler le peuple. Donc, on voit bien que la paracha n'était pas donnée à une époque de corona, parce que là, on n'a pas le droit de se rassembler, évidemment. Mais cette dimension de rassemblement du peuple juif, elle va servir à quoi? Eh bien, elle va servir à donner trois versets d'introduction à la construction du Mishkan. Et ce sont quoi, ces trois versets? Eh bien, ces trois versets, c'est tout simplement des versets qui viennent nous parler de Shabbat. Shabbat. Shabbat pour la construction du Mishkan? Quel rapport? Eh bien, justement, j'ai parlé tout à l'heure que nous avions... Alors, nous avons ma fille derrière qui fait beaucoup de bruit. Attendez deux secondes.
Shira, Marissa, Tokara, Pédé? Ou pas Tokara? Taha? Yo. Charles, ça va être déchiqué? Ça va être quand même sa semi rouge? Non?
Ok. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la dimension des Moadim que nous avions. Alors, je vous ai dit, on a déjà la dimension de Pessah, parce qu'on est sorti d'Égypte, mais on a déjà une fête qui est déjà mise en place. Et cette fête, c'est bel et bien Shabbat. Vous allez me dire, c'est pas une fête. Et si, parce que plus tard, dans le livre de Vayikra, eh bien, on verra que le Shabbat est la première des Moadim. Et les Moadim, Hachem, Hachem, Tikri, Wotam, Ben Moadam, on marquera dans le verset, et ensuite, on commencera en disant, Shechet Yamim Ta'avod, Leom Hachemi, Shabbat. Donc Shabbat est un moed, c'est un temps de rencontre. Donc on nous met Shabbat directement en relation avec la construction du Mishkan. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il faut faire respecter le Shabbat, Sheshet Yamim, Ta'avod ve'yom ha'shevi'i lo ta'aseh melacha. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça juste avant la construction du Mishkan? Eh bien, vous le savez très bien, c'est pour nous informer que la construction du Mishkan ne permet pas de transgresser Shabbat. On met Shabbat et le Mikdash, Mishkan, sur le même plan d'égalité. Alors évidemment, je ne rentre pas dans la réflexion de à l'intérieur du Mishkan, du Mikdash, quand il sera construit, eh bien, on transgressera Shabbat à l'intérieur du Mikdash. C'est-à-dire que dans le Beth Amikdash, on fait les korbanot le Shabbat. Faire un korban, ça veut dire faire sortir le sang, ôter la vie d'un animal. Or, ça, ce n'est pas permis à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc, on transgresse Shabbat dans le Mikdash, mais ça, c'est une autre histoire, on en parlera peut-être un autre moment. Pour construire le Mikdash, on n'a pas le droit de transgresser Shabbat. Lama. Lama, Bemet. Bemet, c'est chez là. Et vous savez quoi? Avant d'y répondre, je vais me concentrer sur ces fameux versets de Shabbat. C'est pas la première fois qu'on nous parle de Shabbat dans la Torah. Pour être exact, c'est la troisième fois. La première fois on nous a parlé de Shabbat, c'était dans la paracha de Béchalach, juste après être sorti d'Égypte, après avoir traversé la mer. Eh bien, il y a l'histoire de la manne, et dans la manne, on nous dit que le Shabbat, on n'a pas le droit de sortir récupéré de la manne. La deuxième fois on nous parle de Shabbat, c'est dans les 10 commandements. Dans les 10 commandements, on nous dit clairement « Zachor et Yom HaShabbat le Kodesh ». Et ici, dans la paracha de Vayakhel, on nous parle encore une fois de Shabbat. Mais attention, essayons de comprendre 2 secondes. Shabbat, en relation avec la création du Mishkan. Combien y a-t-il de travaux interdits à Shabbat? Eh bien, de travaux interdits à Shabbat, il y en a, vous le savez, 39. Lama. Si on a dit que le Shabbat était en corrélation directe avec, eh bien, tout simplement, la construction du Mishkan, on ne peut pas ne pas parler du Shabbat sans lui faire référence directement au premier des Shabbatot. Je vous ai dit, on a entendu parler de Shabbat dans la manne, on a entendu parler de Shabbat à l'époque de Aseret HaDibrot, on a entendu parler de Shabbat là dans notre paracha. Évidemment qu'on a entendu parler de Shabbat à un autre moment. Eh oui, la création du monde. La création du monde, évidemment qu'on a parlé de Shabbat. Évidemment. Et là, il va falloir qu'on réfléchisse 2 petites secondes. La construction du Mishkan, c'est en microcosme la création du monde. Et donc, il semblerait évident de comprendre que la façon dont on a créé le monde, c'est la façon dont on va se servir du Shabbat, c'est la façon dont on va créer le Mishkan. Je m'explique. Parce que là, pour l'instant, je donne des grosses phrases, des grands slogans. Il va falloir expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Alors, le Shabbat, 39 travaux, à quoi servent-ils? Ce sont les 39 travaux qui permettaient à faire la construction de Mishkan, certes, ça vous le savez. Mais c'est surtout autre chose. 39 travaux, en fait, moi, je voudrais les diviser autrement. Je voudrais les diviser en 11, 11, 7 et 10. 11, 11, 7 et 10, bon, ça fait 39. Mais pourquoi est-ce que je fais cette distinction-là? J'ai dit tout à l'heure que le Shabbat était directement lié au Mishkan. J'ai dit tout à l'heure que le Mishkan, eh bien, c'était la réalisation du projet de l'homme dans le monde. Alors très bien, allons-y. 11, 11, 7 et 10. Essayons de comprendre de quoi il s'agit. Les 11 premiers travaux de Shabbat, les 11 premiers travaux de Shabbat servent de A à Z à la confection du pain. Les 11 seconds travaux de Shabbat servent à la confection de A à Z d'un vêtement. Le pain et le vêtement sont les bases de l'identité humaine, sont les bases de notre capacité d'homme à nous mouvoir dans ce monde. C'est la raison pour laquelle, lorsque Yaakov partira en exil, il demandera à Dieu « Si tu me donnes l'echem l'echol ou beged l'ilbosh, la base de mon identité. Alors, si tu me donnes tout ça et que tu me ramènes, alors tu seras pour moi mon Dieu. » L'echem the beged. Shabbat, les 11 premiers travaux, donc on a dit, c'est pour créer du lechem. Les 11 secondes pour créer un vêtement. Sauf que, une fois que l'homme a son pain et qu'il a son vêtement, c'est très bien, mais il peut survivre dans son monde, mais il ne peut pas se mouvoir dans ce monde. Il est statique. Parce que s'il commence à avancer, il va se faire mal. Ou au pied. Il a besoin d'un vêtement plus pointé, plus dur. Ce qu'on appelle aujourd'hui un vêtement, enfin aujourd'hui à l'époque, un vêtement en cuir. Oui, aujourd'hui on a des jupes en cuir, on a des manteaux en cuir, on a tout ce que tu veux en cuir, des sacs. Mais à l'époque, le vêtement de cuir par excellence, c'était les sandales. Donc quand on te parle d'un vêtement en cuir, c'est pour faire des chaussures, pour pouvoir avancer dans ce monde. Pourquoi je vous parle de sandales et de cuir? Eh bien, simplement parce que les sept travaux qui suivent dans Shabbat sont les sept travaux qui permettent à la confection d'un vêtement en cuir. En d'autres termes, nous avons 11 travaux pour faire du pain, 11 travaux pour faire un vêtement, qui sont les bases du kiyum de l'homme, et nous avons 7 vêtements plus durs, qui sont les vêtements en cuir, qui nous permettent d'avancer dans le monde. Ça nous amène déjà à 29. Il nous en reste encore 10. Nachon, deux secondes. On va y arriver aux 10. On va y arriver, vous en faites pas, on va y arriver. Aval. Dans ces 11, 11 et 7, je ne peux pas seulement les relier entre la construction du Mishkan et ce qui est interdit pendant Shabbat. Il faut que je les relie à l'origine. Et cette origine, bah, c'est bien et bien la création du monde. Or, dites-moi, comment Dieu a créé le monde ? D'après la tradition juive, Dieu a créé le monde be'asara ma'amarot, par 10 paroles. Alors vous comprenez bien que ces 10 paroles vont être en rapport avec les 10 travaux qu'on n'a pas encore évoqués, Zenachon. Mais ces 10 paroles, les paroles sont créées de quoi ? Elles sont créées de mots, qui eux-mêmes sont créés de lettres. Or comme vous le savez, vous avez été à l'Ulpan évidemment, vous savez combien de lettres il y a dans l'alphabet hébraïque ? Hein ? Oui, bien sûr, 29. Ben oui, il y a 29 lettres dans l'alphabet hébraïque. Non ? Si, comptons ensemble. Aleph, Vet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud, Chaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Fei, Tzadik, Kuf, Reish, Shin, Tav. Nous avons. On a bien dit 29. Ah non, je suis arrivé à 22. Ah oui, non mais attendez, il y en a encore 7 autres. Il y a 7 lettres qui sont pointées, qui changent leur prononciation, qui sont de différentes lettres. À l'Ulpan, vous en avez appris 6, mais en vrai, il y en a 7. Le Vet devient le Bet. Le Gimel devient le Rimel. Le Dalet devient le Dalet. Le Chaf devient le Kaf. Le Fei devient le Pe. Ron. Le Tav, le Sav devient le Tav. Et le septième qui n'est pas après Aloupan, c'est le Reish devient le Reish. En d'autres termes, nous avons 22 lettres plus 7 lettres. Et vous savez quoi? Moi, j'ai divisé les 22 en 11 et 11. Mais je ne suis pas le premier à l'avoir fait. Rabbeinu Saadia Gaon. Rabbi Saadia Gaon, dans l'un des premiers livres de grammaire hébraïque qui ait jamais été écrit, qui s'appelle Agron, eh bien lui aussi divise les 22 lettres de l'alphabet hébraïque en 11 et 11, qu'il appelle 11 légères et 11 lourdes. En d'autres termes, nous avons bel et bien 22 lettres qui sont 11 et 11, plus 7 qui sont les bases du dialogue de Dieu, qui sont donc les bases de la création, qui sont donc les bases de l'existence de l'homme avec son pain, son vêtement et ses chaussures, et qui sont donc les bases de la construction du Mishkan. On a dit, il en manque 10. Il en manque encore 10. Nachon. Et oui, car maintenant qu'il a les bases, il faut les rattacher à une création. Le monde a été créé, et comme vous le savez, nous avons 4 éléments. 4 éléments qui ont formé ce monde que Dieu a choisi d'utiliser. L'eau, l'air, la terre et le feu. Et face à ces éléments-là, eh bien, nous avons encore 8 travaux qui sont interdits pendant Shabbat. 8 travaux qui sont directement liés à ces éléments. Celui qui écrit, celui qui efface, kotev vemochek, c'est par rapport à l'eau, l'encre est faite de liquide. Celui qui construit et qui détruit, par rapport à la terre. Celui qui allume un feu et qu'il éteint, par rapport au feu, évidemment. Celui qui fait un nœud et qui libère ce nœud, c'est par rapport à l'air. Quel rapport, me direz-vous ? Eh bien, comme nous sommes extrêmement proche de gens qui travaillent à la NASA, eh bien, nous avons pu leur demander de faire une expérience pour nous. Ils l'ont faite et ils nous ont expliqué qu'on ne peut pas faire un nœud dans l'espace. Pourquoi on ne peut pas faire un nœud dans l'espace? Parce que pour que le nœud y tienne, on a besoin de la pression atmosphérique. En d'autres termes, à kosher va à matir, c'est par rapport à l'air. Mais il nous manque encore deux alors. Parce qu'on a dit, Be'asaram amarot nivra olam. Que Dieu a créé le monde par 10 paroles, pas 8. 10 paroles. 10 paroles. Alors, c'est quoi les deux derniers travaux? Les deux qui nous manquent. Il y en a un qui s'appelle Maké Bepatish. C'est Maké Bepatish. Maké Bepatish, c'est ce qui va permettre à l'ustensile d'être un ustensile. C'est pas finir l'action. Oui, c'est finir l'action. Mais ça veut dire concrètement faire d'un truc qui n'est rien un objet. Je vous explique. Je suis menuisier, j'ai créé une table. Et donc pour ça, j'ai fait un plateau comme ça en bois. J'ai fait 4 pieds en bois. Et j'ai pris des trous pour les vis et tout, machin. Maintenant, j'ai tout préparé. J'ai ma table. Elle est poncée, elle est lissée, tout ce que tu veux. Et j'ai mis 3 pieds déjà à l'intérieur des vis, tout est bien. J'ai posé ma vis dans le 4e pied. Et là, je vais visser le 4e pied. Visser le 4e pied, ça s'appelle Maké Bepatish. Pourquoi? Eh bien, parce que tant que j'ai pas vissé le 4e pied, le truc là qui est à côté de moi, c'est pas une table. C'est pas une table. Ça s'appelle un ensemble de bois avec du métal dedans. C'est pas une table. Au moment où j'ai mis le 4e pied, ça devient une table. C'est ce qu'on appelle Maké Bepatish. Ça fait devenir l'objet en tant qu'objet. Maké Bepatish. Nahon. Et Fémeod, Maké Bepatish, c'est en fait ce qui permet au monde d'être monde. Mais sauf qu'avant de pouvoir permettre au monde d'être monde, permettre au Mishkan d'être Mishkan, il y a la première. La première Melacha. La première Melacha qui est d'ailleurs mise en relation avec la toute première fois où on nous parle de Shabbat dans la Torah. À part évidemment la création du monde. J'ai dit la première fois où on nous parle de Shabbat dans la Torah, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a l'histoire de la manne. Eh bien, on n'a pas le droit, on nous dit, de Shabbat sortir récupérer la manne. C'est ce qu'on appelle Issour Otsa'a. Mais c'est Issour Otsa'a. Issour Otsa'a, c'est que j'ai un livre, et j'ai un livre dans la main, et disons que là, je suis chez moi, et là, c'est pas chez moi, c'est dehors. Faire ça, poser le livre dehors, c'est Issour Otsa'a. C'est interdit de faire ça pendant Shabbat. Ce qu'on appelle Otsa'a Mirshut Mirshut. Sortir un objet, un ustensile, quelque chose, d'un domaine à l'autre domaine. Ça, c'est ce qu'on appelle Issour Otsa'a. Mais c'est Issour Deoraita. Eh oui, c'est un vrai truc. Alors, vous allez me dire, attends, c'est quoi? T'as pris un livre, tu l'as mis là, Kilou Makara. En quoi c'est tellement un problème pour Shabbat? Et quel rapport, Bichlal, avec Shabbat? Mes amis, c'est très simple. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà étudié ensemble, donc vous le savez. Mais évidemment, Dieu, comment il a créé le monde? Alors, on a dit par des paroles, Zedachon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant la création du monde, il y avait quoi? Il y avait Dieu. C'est tout, il n'y avait que Dieu. Lorsqu'il a sorti le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Et je l'ai déjà expliqué, vous le savez, que Bara, en arabe, ça veut dire Bra, ça veut dire dehors. C'est-à-dire, vous savez que Bara, ça veut dire mise à l'extérieur. En d'autres termes, lorsque Dieu y crée le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il sort le monde, Mirshut, Lirshut. Attention, je vais éternuer. Et comme on a dit dans les directives de notre Premier ministre, on éternue dans le coude, bien évidemment. Corona oblige. Les amis, lorsque Dieu a créé le monde, ou Otsioto, Bara Otsi, il a sorti le monde de lui. En d'autres termes, la création du monde, c'est quoi? C'est Otsa, Mirshut, Lirshut. C'est la sortie d'un ustensile, le monde, d'un domaine à l'autre domaine. Otsa, Mirshut, Lirshut. En d'autres termes, évidemment, Toda Rabba Eli, merci beaucoup. En d'autres termes, mais bon, Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un délai ou pas, mais j'ai eu le temps d'éternuer 12 fois avant que tu me dises. Mais bon, Chazak ou Baruch Todaraba. Et lorsque Dieu crée le monde, c'est donc Otsa Mirshut, Mirshut. Il a sorti le monde de lui, d'un domaine à l'autre. Donc, si moi, Shabbat, je veux ressembler à Dieu, eh bien, je m'arrête de faire les travaux qui ont servi à la construction du monde. Je m'arrête de faire le Mishkan, qui est la représentation de la création du monde. Donc, la première chose que j'arrête de faire, c'est Issur Otsa. Aval! Ça, c'est la première fois qu'on rencontre le Shabbat. Dans notre paracha, on ne rencontre pas Shabbat par l'intermédiaire de Otsa. On rencontre Shabbat par l'intermédiaire d'autre chose. On nous dit Lotaviru Esh. Lotavaru Esh Vechol Moshvotechem Beyom Shabbat. Faut pas allumer le feu. C'est ça qui est mis en relation avec le Shabbat et la construction du Mishkan. Ne pas allumer du feu. Et là, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, ce n'est pas grave. Il faut que je vous rappelle les paroles de mon père Shlita. Lors des premières années où je revenais en France, quand il n'y avait pas le corona, eh bien, je revenais en France. Maintenant, j'allais chez mes parents. Et comme vous le savez, vous les connaissez, mes parents ne sont pas des fervents respectueux de la religion juive et de ses mitzvot et halakhot. Mes parents sont traditionnalistes, mais pas religieux. Et donc, même si de aussi loin que je me rappelle, dans mon enfance, ça n'est jamais arrivé qu'on n'aille pas à la synagogue le Shabbat, on allait tout le temps à la synagogue le Shabbat, mais on allait en voiture. Sauf que là, quand je revenais, au début, bon, maintenant il ne le fait plus, mais à l'époque, quand je revenais, bah, il savait très bien que je n'allais pas vouloir aller à la synagogue en voiture. Alors, bien que je lui dise, mais tu sais quoi, papa, tu n'es pas obligé de m'accompagner, je peux y aller tout seul, 20 minutes de marche, pour arriver jusqu'à la Das et Shurun. Maintenant, mon père, il me disait, ah, je vais t'accompagner, nanana. Et dès qu'on revenait sur le chemin du retour, en général, à l'endroit que les médecins connaîtront comme étant le plan d'eau, lorsqu'on arrivait au plan d'eau, en général, c'est à ce moment-là qu'il me disait, bon, hé, hey, ça m'a saoulé, là, il faut que je te... Hein, parce que quand même... Ok, je veux bien allumer un feu, c'était un travail dans le désert, j'entends. Mais tu vas quand même pas me dire qu'appuyer sur un bouton, l'interrupteur par exemple, alors ça c'est Assur Beshabbat, que c'est un travail. C'est là que j'ai souvent expliqué à mon père que il n'est jamais interdit de travailler Shabbat dans la Torah. Ce qui est interdit de faire dans la Torah pour Shabbat, c'est Melacha. Et il y a une différence entre Avoda et Melacha. Avoda, c'est un travail physique. Melacha, c'est une création. Avoda, c'est ce que les animaux peuvent faire également. Et ils le font des fois même mieux que nous. Melacha, ils en sont incapables. Avoda, par exemple, c'est ma bibliothèque me saoule d'être à droite de la pièce, j'ai envie qu'elle soit à gauche. J'ai le droit, pendant Shabbat, de déplacer toute ma bibliothèque. Ça va me prendre 3 heures. Je transpirerai comme un phoque à la fin. Il n'y a pas de problème. Je serai crevé. Mais si c'est mon onek Shabbat de transférer ma bibliothèque de la droite à la gauche de l'appartement, moutard. Alors que faire pit sur l'interrupteur, assourd. Pousser ma bibliothèque de la gauche à la droite ou la droite à la gauche, en fait, c'est la version humaine de pousser un rondin de bois. Et c'est ce que font les éléphants. Il n'y a qu'à voir Astérix chez Razad. Les éléphants savent bouger des gros objets d'un endroit à un autre, et puis les autres animaux également. Donc, pousser ma bibliothèque de la droite à la gauche, c'est exactement un acte qu'un animal peut faire. Mais ça veut dire qu'amour. Aval allumer un interrupteur, enfin pousser sur un interrupteur, allumer une ampoule. Et pour arriver à ça, vous savez combien d'esprits extraordinaires pour arriver à Thomas Edison et son ampoule? Combien de fois lui, il a essayé avant que ça marche? Quelle création extraordinaire! C'est le génie humain de pouvoir créer quelque chose. Lavoisier disait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La notion de transformer, c'est le propre de l'homme. C'est pour ça que dans notre paracha, lorsqu'on va parler de la construction du Mishkan, on dira qu'il faut être Chacham Lev, cette Chochma qui est le propre de l'homme. Alors, quelle est notre histoire ici avec le feu? Eh bien, c'est très simple, les amis. Melacha, c'est donc, on a dit, la construction nouvelle que l'homme peut faire. À partir de quand l'homme a fait un bond énorme au niveau technologique, au niveau de sa capacité à créer de nouvelles choses, eh bien, au niveau archéologique, le moment où l'homme a fait un bond dans son histoire qui lui a permis de dompter son monde, c'est lorsqu'il a découvert et appris à utiliser le feu. Le feu. Alors, si on parle de scientifique, alors on dira que celui qui a appris à domestiquer le feu, c'était Homo ergaster, si je ne me trompe pas. Et c'était un truc du style, il y a à peu près 150, 270 000 ans. On a appris à domestiquer le feu. Ça, c'est au niveau scientifique. Et au niveau scientifique, je vous expliquerai de manière très très simple que lorsqu'on a appris à domestiquer le feu, eh bien, on a compris qu'on pouvait cuire la viande. Et le fait qu'on cuise la viande nous a permis d'en manger beaucoup plus. Parce qu'avant, on mangeait de la viande, mais on la digérait mal. La viande crue, ça se digère mal. Donc, on en mangeait, mais peu. Lorsqu'on a commencé à cuire la viande, on l'a digérée beaucoup mieux et donc on a mangé beaucoup. Qui dit manger beaucoup de viande, dit avoir beaucoup de protéines, dit avoir un cerveau qui grandit et qui grandit et qui grandit et qui nous permet d'avoir énormément d'inventions. Donc ça, c'est au niveau purement archéologique, paléontologique, purement scientifique. Au niveau Torah, la domestication du feu de l'homme, et on s'en fiche de savoir si c'est ça correspond au niveau des timings. D'après le Midrash, quand est-ce que l'homme a découvert le feu? Il a découvert le feu, c'est Adam Harishon, à la fin de son premier Shabbat. À la fin de son premier Shabbat, Dieu voit Adam Harishon en bad. Il est en dépression. Pourquoi? D'après la tradition, il a fauté, il a mangé de son fameux fruit vendredi après-midi. Et il est rentré Shabbat avec sa faute. Le soir, vendredi soir, il ne l'a pas trop senti puisque Chava a allumé des bougies, donc il y avait de la lumière dans le monde. Et puis après, il s'est endormi, et puis le lendemain matin, il y avait la lumière. Mais arrive Shabbat soir, enfin, Motsei Shabbat, c'est samedi soir, il n'y a plus de lumière. Les bougies de Chava ne sont plus là. Et il n'y a plus que Rocher al Peneteon. Et il est complètement déprimé parce qu'il se dit que c'est à cause de sa faute que le monde est revenu au Rocher. Et là, Kadosh Baruch Hu, dans le Midrash, lui dit, ne reste pas comme ça. Regarde, là, tu vois, à côté de toi, il y a deux pierres. Frotte, tu verras, tu vas kiffer. Il prend les pierres, il frotte de silex et il voit les étincelles jaillir et il allume un feu. C'est la raison pour laquelle nous, à Motsei Shabbat, à la Havdala, on fait boré meoré à Esh. On utilise deux flammes pour les deux silex. C'est fondamentalement différent de la façon dont la mythologie grecque, par exemple, nous explique comment l'homme a découvert le feu. Dans la mythologie grecque, on nous parle de ce qu'on appelle le mythe de Prométhée. Ou Prométhée, qui était le fils d'un titan, le fils de Yafet. On retrouve énormément de noms comme ça bibliques dans les différentes mythologies. Prométhée a volé le feu à Zeus et l'a donné aux hommes. En punition, Zeus l'a récupéré, a pris Prométhée, l'a attaché sur une des montagnes du Caucase, avec comme punition éternelle, c'est que son aigle fétiche lui dévore le foie tous les jours. Et chaque nuit, le foie repousse. Et le lendemain matin, l'aigle revient lui dévorer le foie. Donc, dans votre prochain tilloul dans le Caucase, si vous voyez au détour d'une montagne un vieillard avec le foie complètement becqueté, vous saurez de qui il s'agit, c'est Prométhée. Bon, nounou. Maintenant, si on fait la différence entre les deux histoires, elle est fondamentale, la différence. Dans la première histoire, dans la mythologie grecque, eh bien, il y a une véritable... j'ai envie de dire compétition entre les dieux et les hommes. On ne veut pas qu'ils aient le feu. On ne veut pas qu'ils puissent commencer à construire. Alors que dans le judaïsme, non seulement on veut que l'homme ait le feu, mais Dieu ne donne pas à Adam une torche. Parce qu'il veut que l'homme participe à la création. Il lui donne deux silex, il lui dit au boulot. Lorsqu'on nous parle de Shabbat comme préambule du Mishkan, on nous dit, voilà pourquoi tu t'arrêtes pendant Shabbat. Tu t'arrêtes pendant Shabbat pour te rattacher à la création du monde. Mais lorsque ce sera plus Shabbat, tu devras participer à cette création du monde et tu devras créer ce Mishkan. Ainsi, la paracha de Vayakel est en fait la paracha où l'homme, pour la première fois de son histoire, prend sa responsabilité de réaliser ce qui était marqué dans le livre de Bereshit, Asher bara Elohim la'asot, qui vaut Shabbat mikol melarto. Car Dieu s'est arrêté pour que nous, on puisse faire. Les amis, la paracha de Vayakel, c'est donc la paracha de la prise de responsabilité de l'homme dans son monde. Et ça, c'est tout un programme. C'est tellement un programme, cette prise de responsabilité, que c'est ce qui nous accompagne finalement dans chaque Shabbat. Parce que la Gemara nous dit « Michelo tarach le Shabbat » Lo yochal be Shabbat, celui qui n'a pas, en français, construit le monde pendant 6 jours, eh bien, il ne pourra pas profiter de son Shabbat. Est-ce qu'on parle simplement de son Shabbat, Shabbat ? Ben oui, concrètement, si tu n'as pas cuisiné, tu ne mangeras pas Shabbat. Mais, de manière beaucoup plus profonde, celui qui n'a pas bossé pendant les 6 jours de la création, qui sont les 6000 ans dans lesquels nous sommes, alors il ne pourra pas véritablement profiter de ce Shabbat. Peut-être. Et là, je dis peut-être. Peut-être que on avait très bien compris ça, qu'on a bossé comme des malades, mais que ces dernières années, on n'était plus tellement dans la construction du monde, mais peut-être un peu plus dans sa destruction. Des fois, on ne s'en rendait pas forcément compte. Mais peut-être que le trop-plein de technologie, le trop-plein d'abondance que Dieu nous a donné, nous a amené à une... Bah, quelque part à une... J'ai envie de dire un rejet de la volonté de construire, et se dire qu'on peut tout à fait détruire. Et on a plein de choses dans nos habitudes qu'on avait avant, j'allais dire avant le corona, des habitudes qui sont plus destructives que constructives. Que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit et dans notre façon de manger, que ce soit dans notre façon d'aborder le monde. Peut-être. Et je dis peut-être parce que j'en sais rien. Mais peut-être que ce qui nous arrive là en ce moment, depuis un mois et demi, 2 mois, eh bien c'est pour nous réapprendre que notre rôle est de construire. Et pas seulement de profiter. Pas seulement de profiter, mais de construire le monde. C'est notre rôle. C'est le rôle que la paracha de Vayakel nous met en place. Et vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il est en train d'avoir un ton comme s'il était en train de finir le cours, alors que ça fait à peine une demi-heure qu'on étudie et non pas une heure comme d'habitude. Eh bien, je vous dirais que, de mon expérience, quand je fais un YouTube live, pour l'instant, je n'arrive qu'à enregistrer 34 minutes. Qu'après, pour des raisons qui techniquement m'échappent, mais ça sera, voilà, je vais demander à des professionnels, mais pour l'instant, ça se coupe après 34 minutes et je parle dans le vide. Donc, je vais m'arrêter à 34 minutes et d'ici à la semaine prochaine, j'aurai appris comment est-ce qu'on fait pour faire plus que 34 minutes, parce que je comprends pas pourquoi ça s'arrête. Et voilà. Et donc, voilà, c'était le petit message que je voulais vous faire passer pour la parasha de cette semaine. Je sais pas encore comment ça va se passer Shabbat à Shorashim. Est-ce qu'il y aura la tfila, il y aura pas la tfila, tout ça va être décidé demain. Dans tous les cas, ceux qui sont dans ce qu'on appelle les groupes à risque, bevadai ou bevadai que vous ne venez pas à la choule. C'est évident. C'est bevadai que pikuach nefesh doche Shabbat et que donc vous restez à la maison et que vous vous priez à la maison tranquillement à Kol Besteder. Et Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine, nous, sur cette chaîne, et on se retrouve Bezrat Hashem, peut-être même avant, lorsque le confinement aura cessé, on ne sait jamais, et voilà. Alors à bientôt les amis.